Salut les zèbres et les indigènes, vous êtes bien sur Zebra Zen. Nous avons une spéciale rentrée aujourd'hui avec une émission Bien-être au travail. Nous allons accueillir dans nos studios Nathalie Ray, coach en entreprise et passionnée des neurosciences. Ensuite, nous aurons l'occasion d'écouter Virginie Servès et ses astuces coaching vocal à l'occasion de la sortie de son livre. Et tout de suite, je reçois le docteur François Baumann qui vient de sortir cette année un livre intitulé « Éliminer la souffrance au travail » aux éditions Josette Lune. François Baumann, bienvenue sur nos ondes. Merci de nous accorder cette interview.
Merci à vous.
Alors, est-ce que vous voulez bien dégrossir un petit peu pour nous les différences entre le burn-out, le brown-out et le bore-out? Parce qu'en lisant votre livre, j'ai compris qu'il y avait ces trois axes bien différents. Alors, on connaissait le burn-out jusqu'à présent, mais est-ce que vous voulez bien nous éclairer sur les différences, justement, entre ces trois termes?
Oui. Enfin, ces trois termes désignent en fait un épuisement au travail, et donc aboutissent globalement aux mêmes symptômes, et sont donc, en tant qu'épuisement, ils ont des causes différentes. C'est pour ça que je les ai distingués.
Oui.
Le burn-out, comme vous savez, c'est un épuisement donc en rapport avec l'excès de travail, l'excès de stress, un travail trop important qui dépasse la personne et qui l'entraîne dans un état dépressif. Le bore-out, c'est aussi un état de stress, mais en rapport cette fois avec un ennui profond au travail.
Oui.
Des gens qui s'ennuient au travail ou ailleurs, mais l'ennui peut déclencher ce genre de symptômes dépressifs. Et puis, le burn-out, c'est encore une autre forme. C'en est une qui consiste à ce que les gens perdent le sens, on perd le sens de ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est une sorte de révélation de l'absurdité du travail que l'on mène ou de la tâche qu'on a entreprise.
Oui, on n'y trouve plus de sens par rapport aux valeurs en fait, qu'on avait investies.
Voilà, les valeurs se sont modifiées, ou le travail lui-même a changé d'ailleurs, et on est perdu devant un travail qui n'a plus de sens. C'est ce qu'on appelle souvent, souvent l'origine, ce sont les bullshit jobs. Voilà. C'est-à-dire ces travail de merde, on va dire, en gros, qui ne servent à rien, et que on s'aperçoit plus ou moins rapidement qu'ils sont toxiques et dangereux.
Dernièrement, j'ai discuté avec un médecin qui m'a parlé d'une de ses patientes, en fait, qui a dû changer de rôle dans son entreprise. Elle était DRH et puis on l'a mise un peu au placard. On lui a mis des timbres à coller toute la journée. Et du coup, ça a accentué en fait la dépression. Donc ça, par exemple, le fait de faire des tâches répétitives comme ceci, est-ce qu'on rentre dans le cadre du bore-out?
Écoutez, quelqu'un qui est DRH, donc qui a des responsabilités humaines et qui a sous ses ordres un certain nombre de gens qui pensent à tort ou à raison que l'intérêt de son travail se situe à un certain niveau de compétences et de valeurs, quand tout d'un coup il se met, mais j'ai des exemples, j'en ai d'autres comme ça, à coller des timbres, on peut penser que c'est quand même moins intéressant et que c'est le côté répétitif de coller des timbres, effectivement, doit être assez gênant. Mais il y a aussi le manque d'intérêt humain. C'est-à-dire, on a besoin tous d'avoir une motivation
au
travail, aussi petite soit-elle.
De nourrir le mental, l'esprit.
Voilà, on se nourrit de ça, puisqu'on y passe, enfin, le travail est quand même une part importante de la vie. On y passe beaucoup de temps, voire 80% de son activité, et on a besoin que ça ait un sens.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené en fait à vous spécialiser un petit peu là-dedans? Parce que vous avez fait de nombreux écrits, vous avez été reçu de nombreuses fois aussi au niveau des radios et de la télé. À la base, vous êtes médecin généraliste.
Oui,
c'est ça.
Je suis médecin généraliste.
Et qu'est-ce qui vous a poussé
à... Le médecin tout court, d'ailleurs. Oui. Parce que je pense que c'est la médecine passe par la médecine générale et le reste est spécialisé, comme son nom l'indique. Donc, ne concerne pas l'individu dans son ensemble. Et la médecine, c'est la médecine générale pour moi. Et ce qui m'a intéressé, je dirais même presque interloqué, enfin, au départ, c'est souvent des choses comme ça qui vous motivent pour vous lancer. C'est l'originalité presque des symptômes et des troubles décrits par mes patients. Et j'avais jamais entendu ça en 40 ans de plus de 40 ans de pratique, le travail pouvait rendre malade, épuisé, vous laisser dans un coin sans pouvoir bouger, à pleurer, voilà.
Et cette tendance, vous avez eu l'impression qu'elle s'est développée, qu'elle s'est accélérée à partir de quand à peu près?
Moi, j'ai écrit mon premier livre il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Le Burnout.
Oui.
Et justement, suite au contact brutal avec des patients qui allaient très mal, il a fallu que je comprenne d'abord ce qu'ils avaient. Ce n'était pas dans la nosographie habituelle des maladies dont je m'occupe. Mm-hmm. Il a fallu que je comprenne, que je regarde ce qui se faisait aux États-Unis, puisque les mots sont des mots américains.
Oui.
Donc, ça ne veut pas dire que la maladie est exclusivement anglo-saxonne, mais ça veut dire qu'ils ont su décrire très vite des choses que nous, on a plus de temps à intégrer ou plus de mots à exprimer. Et vu la violence de leurs problèmes, je crois que ce n'était pas seulement d'origine psychogène, mais aussi d'origine sociale, mais aussi d'origine philosophique, mais aussi d'origine... ça s'origine dans énormément de points de l'individu, énormément d'angles et de...
Dans votre livre « Éliminer la souffrance au travail », vous dites qu'on a tendance à oublier la dimension affective de l'humain de manière assez générale, hein, et qu'on ne peut pas dissocier en fait la vie de la personne, ce qui fait ce qui fait notre personnalité, et puis le travail. On ne peut pas en fait nous mettre dans des cases, tout simplement. On est obligé de prendre en compte...
On est des êtres humains, comme vous dites. C'est-à-dire qu'on est multicentré, on n'est pas des machines. On sait faire plusieurs choses, on sait réfléchir à plusieurs choses à la fois. Pour prendre un exemple, parce qu'une des causes de cet épuisement, c'est aussi la charge mentale, entre guillemets, qui est assez à la mode dans l'expression en tout cas, où par exemple, une femme qui s'occupe de ses enfants, s'occupe aussi de son travail, s'occupe aussi de l'organisation de la maison, s'occupe de ses parents âgés, etc. On a plusieurs recentrages comme ça sur les événements de la vie, sur la société, et donc c'est quelque chose de nouveau dans ce sens. D'abord, c'est pas si longtemps qu'on a toutes ces charges en même temps, et ensuite, ce qui est nouveau, c'est qu'on s'aperçoit que ça peut vous mettre carrément KO debout, je dirais, au tapis, parce que vous pouvez plus, quand vous avez un burn-out, un bore-out, un burn-out, et qu'il est bien avancé déjà, vous pouvez plus rien faire, quoi.
Alors on va...
Il va falloir du temps.
On va parler des conséquences qui peuvent être vraiment dramatiques. Juste avant, on va écouter un morceau de musique et je vous retrouve juste après François Baumann.
Je plonge dans une mer numérique. la portière, on est du siège en tissu synthétique.
Nous sommes de retour dans l'émission Zebrazen sur CFM Radio. Notre invité est le docteur François Baumann et nous parlons du burn-out, du bore-out et du brown-out puisqu'il vient de sortir son livre « Éliminer la souffrance au travail ». Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, François Baumann, quelles sont les conséquences en fait d'un burn-out qui n'est pas pris à temps? Dans votre livre, vous avez évoqué, par exemple, le suicide. C'est quand même quelque chose de très sérieux.
Bien sûr, ben oui. Oui, c'est scandaleux, quelque part, on pourrait presque dire, que le fait de travailler dans des conditions épouvantables amène jusque-là les conditions comprenant l'ambiance, comprenant l'intensité, et que bon, l'être humain soit ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tout supporter. Donc voilà, il y a des signes qui appellent au secours avant, il faut pouvoir percevoir. Et puis parfois, c'est tout à coup, boum, on tombe comme une masse. Et c'est souvent le cas des gens qui ne s'écoutent pas beaucoup, qui sont très travailleurs, ça s'adresse à des gens comme ça, tout.
Soit, très consciencieux, qui ont envie de bien faire leur travail.
Ils sont perfectionnistes souvent d'ailleurs, et ils vont jusqu'au bout. Et ça, le danger du perfectionnisme n'est pas décrit suffisamment. Je pense que pourtant, il est présent.
Et en fait, c'est vraiment une caractéristique en fait des trois phénomènes d'aller jusqu'au suicide.
L'épuisement.
Ouais.
Les trois phénomènes d'épuisement donnent, si vous voulez, des symptômes de dépression. Une dépression très particulière, pas la dépression forcément décrite dans les manuels de psychiatrie, parce que leur origine est très précise. Ils sont pas forcément déprimés par un chagrin d'amour ou déprimés par la vie, par un deuil, par je ne sais quelle situation courante qu'on avait auparavant. On pensait que ça venait de ça, mais souvent, pas toujours, mais souvent. Là, ce sont des dépressions très très je dirais, pointés dans leur cause, et que parfois, il va suffire soit de supprimer la cause, soit de prendre du recul par rapport à elle pour que les gens aillent mieux. Donc c'est triste d'en arriver jusqu'à la mort, on va dire entre guillemets, suicide au travail, comme on en parle beaucoup en ce moment, par exemple pour France Télécom, mais il y en a beaucoup d'autres dont on laisse dans le secret.
Oui.
C'est difficile de voir que la police...
Ah oui, oui, les fonctionnaires, il y en a beaucoup.
Ils ont un service pour se suicider, il y a des gens comme ça qui n'en peuvent plus. Donc au-delà de l'appel au secours qui n'a pas été entendu, je pense qu'il faut... ils vont passer à l'acte, un passage à l'acte, et dans une espèce de désespoir complet.
Et donc vous, en tant que médecin, comment vous accompagnez les gens qui viennent vous voir à cause de cette phase de dépression à cause d'un burn-out? Qu'est-ce que vous leur proposez comme solution?
Mon travail quotidien est fait de plusieurs strates, si vous voulez. Je pense que on n'aborde pas ce type de problème de façon immédiate et directe. C'est long. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie des gens. Ça reprend toute la vie, presque.
Oui, c'est donc on ne se sort pas d'un burn-out en quelques semaines.
Ni d'un burn-out, ni d'un brown-out, encore moins, je dirais, parce que le brown-out comprend à l'intérieur le burn-out et le bore-out, parfois. Tout ça est artificiellement divisé, comme on divise artificiellement les choses pour quand on veut les aborder scientifiquement, c'est une sorte de dissection. Mais la réalité, c'est que... tous ces événements au travail, auxquels se rajoutent d'ailleurs souvent des événements de la vie quotidienne, du type, je disais, chagrin d'amour, mais c'est peut-être un divorce, ça peut être des accidents de la vie, et qui viennent compléter et entraîner ce désir d'en finir.
Oui.
Alors vous... comment fait-on?
Oui. Au niveau thérapeutique, quelles sont les solutions?
Voilà. Il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est d'essayer de faire cesser la cause première. C'est-à-dire le fait, par exemple, quand on est surmené, d'essayer de s'arrêter de travailler. Je dis bien d'essayer. C'est pas une chose facile. On n'arrête pas un TGV qui fait du 300 à l'heure. On va pas l'arrêter sur 10 mètres. Ça va demander du temps. La deuxième chose, ça peut être de prendre des médicaments. Moi, je suis médecin, donc je peux donner des médicaments antidépresseurs quand je vois des symptômes de dépression sérieuse chez un patient. Alors, le médicament est souvent très critiqué par mes patients, parce qu'ils disent « c'est pas ça qui va changer la réalité ». Et quelque part, c'est vrai, et quelque part, c'est faux.
En même temps, ça permet de mettre un peu en pause...
Voilà, ça permet de... Je dirais pas en pause, parce que la pause, je crois pas qu'elle existe tellement dans l'esprit humain, très longue. Le cerveau, c'est très lent à adopter des attitudes différentes.
À rééduquer,
c'est bien,
ouais.
Pas comme ça.
Ouais.
Mais par contre, oui, à rééduquer si vous voulez, mais par contre, ça va permettre un éclairage différent sur les événements en faisant prendre du recul. Il y a certains antidépresseurs, pas tous, qui, sans abrutir, donnés à de bonnes doses, et voilà, avec la surveillance d'un professionnel, vont permettre de prendre un recul artificiel.
Donc ça peut être un palier.
On ne verra pas les choses de la même façon.
Et alors, je présente cette émission qui est très axée sur les domaines holistiques, les conseils bien-être. Est-ce que vous avez également des astuces à nous donner par rapport à des thérapies un peu plus douces, alternatives?
Alors, astuce, c'est un mot difficile en médecine. Hein. Tellement d'astuces de médecin. Je le laisse effectivement aux gens qui prétendent avoir une attitude de pratiquer de la médecine holistique, qui était à la mode il y a 30 ans. Et maintenant, on utiliserait plutôt le terme, donc, par exemple, de recul de type méditatif, ou d'utilisation de son corps pour pallier.
Donc
la pensée, de la mentalisation. Alors oui, on donne des conseils, bien sûr. Mais il faut être très méfiant, parce que c'est un domaine qui est tellement grave quelque part pour les gens qui en sont atteints, en tout cas, qu'il y a toutes sortes de gens qui vont leur proposer des techniques qui, à mon avis, ne sont pas sérieuses.
Oui, et puis c'est vrai que c'est malheureusement quand les gens sont très affaiblis qu'ils sont la proie idéale
bien sûr,
de.
Ils sont perméables aussi bien aux sectes, d'ailleurs aux sectes qui vont leur proposer mons et merveilles, qu'à des techniques onéreuses, longues, et qui n'ont absolument pas
bien
démontré
sûr. Leur efficacité. Non, moi je pensais plutôt qu'on pouvait parler d'exercice physique par rapport au corps,
voilà.
De méditation.
Tout à fait,
de...
tout à fait. tout à fait. Vous pouvez passer par le yoga, c'est-à-dire tout ce qui va faire bouger le corps avec comme objectif le fait de d'éliminer la tension intellectuelle en progressant avec des mouvements, mais on peut dire le sport, mais souvent les gens qui ont 40, 45 ans rechignent un peu avec ce mot, c'est un mot qu'ils utilisaient quand ils étaient au lycée, à l'école, je sais pas où, donc il faut mieux dire bouger son corps, je dirais oui, si la gymnastique fait partie du sport, ça peut faire partie de ça, en tout cas tout ce qui va faire bouger le corps de façon intéressante et même pas forcément très prolongée, ça peut être 3 fois par semaine, 1 heure, ça peut être même moins que ça. Il y a des gens qui ont des techniques personnelles. On peut aller nager, on peut aller à la piscine, aller marcher. Mmh. Simplement 1 heure de marche, parfois, tous les 2 jours, permet d'évacuer. C'est une histoire d'évacuation. Il y a un trop-plein.
Tout à fait.
Et donc voilà, moi je trouve ça utile.
Et
ce sont des compléments. Hein. Moi, quand je soigne quelqu'un, c'est un complément. La sophrologie est un complément.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
Le yoga, la sophrologie, tout ce qui va décontracter l'individu et déplacer sa pensée. Bien sûr, on ne peut pas arrêter sa pensée, ça n'existe pas. Ça vaut la peine de l'essayer de toute façon.
Mais c'est vrai que c'est intéressant de retrouver ce rapport au corps, parce que comme vous le disiez, on a des signes précurseurs, en fait, du problème qui va arriver, mais on ne l'écoute pas. Et parfois, on attend en fait que notre corps nous lâche.
On ne sait pas les reconnaître. Ce n'est pas très facile. C'est un travail de professionnel de reconnaître. Bon, alors, quand vous avez une grosse crise de larmes sans raison pendant une semaine, tous les jours, bah, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vous vous mettez en colère contre vos enfants, contre je ne sais pas qui, alors qu'avant, vous étiez plutôt tranquille, on vous énervait, mais vous preniez du recul. Bon, ça, c'est un signe d'appel. Hein, quelque chose qui ne va pas. Voilà. Les amis sont proches et peuvent le dire. Au travail, les collègues peuvent vous le dire. Parfois, c'est même eux qui vous énervent, donc c'est un peu difficile. Faut tenant et aboutissant. Le DRH ou le chef ou je sais pas quoi peut aussi juger. Dire, toi, tu montes vite, ça va pas en ce moment. Les insomnies, c'est la même chose. On peut voir quand il fait très chaud, comme en ce moment, ici, à Paris, en tout cas. On peut mal dormir. C'est pas forcément pour ça qu'on est en out de quelque chose, vous voyez.
Bien sûr.
C'est pas si simple. Par contre, l'utilisation du corps, moi je la crois importante. Je vous rappelle que le cerveau fait partie du corps aussi. Sauf que c'est un organe quand même qui est beaucoup plus long à mettre en route et à modifier. Alors, ça se saurait si on pouvait se changer comme ça. Mais c'est pas le cas. Souvent, je le veux des gens, mais c'est pas si simple. Voilà. Après, il y a toutes les activités de créativité intellectuelle. Physique, oui, mais intellectuel. Il y a tous les gens qui ont des hobbies, qui aiment.
Retrouver du plaisir, en fait, dans quelque chose, voilà. Dans la créativité,
tout
l'expression
fait.
De soi.
Tout à fait. Voilà, c'est ça.
Tout simplement.
Exactement. Mais ça peut être la première ligne, hein. Je dirais, il n'y a pas de hiérarchie de valeur dans ces choses-là. Il y a simplement le fait qu'on va mettre son esprit ailleurs.
Oui, mais de toute façon, c'est vrai que je pense que pour ces gens qui en arrivent à ce point-là, en fait, à un moment donné, ils se sont quand même beaucoup oubliés. Ils ont tellement donné pour les autres, pour leur travail. Donc,
au départ, c'était des gens qui donnaient pour les autres, essentiellement. C'était une sorte de maladie de l'oblation, où on donne tout à l'autre et on ne s'occupe absolument pas de soi. Et puis, c'est devenu quand même un peu différent. C'est plus ça. On croit qu'on s'occupe encore de soi, mais en fait, le cerveau est pris par des activités qui ne concernent pas forcément soi-même.
Et alors, j'ai appris dans votre livre quand même qu'il y a un quart des Européens, il me semble, qui ont déjà connu la situation de burn-out. C'est quand même énorme comme chiffre.
Facilement. On monte parfois jusqu'à 50%. Ça dépend des pays, ça dépend des étiquettes qu'on met dessus. Pour le burn-out, oui. Maintenant, il y a des effets mode aussi, des maladies, et parfois une fatigue qui pourrait s'expliquer autrement et qualifiée de burn-out, parce que c'est pratique, parce que ça fait joli, parce que je sais pas quoi. Mais ce ne sont pas vraiment, si vous voulez, chacun de ces problèmes correspond à une symptomatologie précise. Oui. Ça veut dire que ce sont des syndromes. Donc un ensemble de symptômes assez précis, on ne peut pas dire tout à fait n'importe quoi.
D'où l'importance de trouver aussi un médecin qui est à l'écoute de nos besoins.
Oui.
Hein,
qu'on puisse. Alors ça commence à venir, puisque l'OMS, vous avez peut-être vu, a reconnu récemment le burn-out comme étant une maladie. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment une maladie, en tout cas un trouble vrai. C'est très difficile de mettre une étiquette précise de maladie, parce que ça sort tellement des rails. On ne peut pas la comparer à une bronchite, à une tuberculose ou à un ulcère à l'estomac. C'est autre chose. Ah, ça peut en donner, hein, d'ailleurs.
Mais oui.
Mais on est dans un autre domaine.
On est quand même dans la maladie du travail, quoi, quand même, c'est sûr.
Oui, si on veut. Oui. Mais oui, bien sûr. Mais l'épuisement, c'est quelque chose de très particulier. Enfin, si vous voulez, on peut être épuisé quand on a fait un marathon. On l'est épuisé à ce moment-là physiquement. Et on peut aussi s'épuiser dans la tête. Dans
mentalement,
le moral,
bien sûr. Mais écoutez,
vous avez une mère, par exemple, qui a une maladie d'Alzheimer, vous verrez, enfin, si ça ne vous est pas arrivé, si je ne vous le souhaite pas, ou quelqu'un proche de vous qui est très malade, vous pouvez vous épuiser et vous en occuper.
Et oui, ouais. Mais écoutez, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir accepté d'être interviewé sur CFM Radio. Je répète le titre de votre dernier livre sorti aux éditions Josette Lyon, Éliminer la souffrance au travail. Merci bien, monsieur Baumann.
Merci, au revoir.
Au revoir. Nous allons écouter un morceau dynamique qui s'appelle Goodman de Bantu Nani. Et juste après, je reçois Nathalie Ray pour parler de bien-être en entreprise en Tarn-et-Garonne.
All the night, I spend my night walking, just like a ghost dog. Remember you brothers, listen.
Excuse me man for what I've done, into this wide world. You try to teach me the difference, between right and wrong. But I was young and blind, to even understand. Just like something's got a hold on me. That girl, the one with us, girls. I go crazy, man. Sometimes I would like to change my color, my mind, my vision to be just like you.
Excuse me, doctor, 'cause heaven sees me, man. I've done everything you said about the pain, but I can't find my words to say. There's a grief, there's a pain.
I was a good, good, good man. Crying on, was standing in front of you, man.
Remember me as a good man.
Hear what I'm saying, man. Good man.
Goodbye, we'll stand all alone.
Give me mum for what I'm gonna say, but please let me do.
If I had died once, but let me die.
Bonjour, Bonjour Nathalie Ray.
Bonjour.
Vous êtes coach en entreprise. Vous avez changé en fait de métier. Vous étiez d'abord dans le milieu financier.
Tout à fait.
Donc est-ce que vous voulez déjà nous expliquer ce qui a motivé ce changement professionnel ?
Alors il y a eu, une conjonction d'histoires. L'histoire professionnelle, qui est une histoire simple, c'est-à-dire que j'ai fait des études, j'ai fait un master 2 en économie et gestion d'entreprise. J'ai donc travaillé dans les banques, j'ai fait du financement d'entreprise, donc logique par rapport à la formation que j'ai faite. Mmh. Et ma vie personnelle en parallèle avec un garçon, Maxime, qui est né donc il y a 25 ans maintenant et qui est né dyspraxique. Et donc, la question s'est posée tout le long de l'éducation que j'ai et de l'accompagnement que j'ai fait avec mon fils, de comment l'aider et comment fonctionne ce fameux cerveau d'un enfant dyspraxique. Donc du coup, je cheminais professionnellement et en même temps, je cheminais sur le plan de ma vie personnelle. Et à un moment donné, j'ai fait de l'accompagnement d'entreprise, j'ai fait du financement. En 2008, il y a une crise financière qui m'a fait réfléchir sur mon métier. Et je me suis dit que ce que je savais faire, je pouvais peut-être, plutôt que le mettre au service privilégier l'accompagnement des entreprises avec les connaissances que j'avais de la banque, pour permettre justement de pouvoir avoir un dialogue entre banque et entreprise, surtout les PME-TPE, de façon à ce qu'ils puissent dialoguer avec leur banque et avoir une bonne connexion avec leur banque.
Donc, est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait déjà des problèmes en fait, dans les grandes structures au niveau de la communication au niveau...
En fait, un dirigeant d'entreprise de TPE-PME est un très bon technicien au départ, qui connaît parfaitement son métier. Par contre, il n'a pas appris à être chef d'entreprise. Donc, tout ce qui est technique, déjà, analyser son bilan, l'expliquer, il ne sait pas le faire. Il sait expliquer son métier, il sait comment il fait une marge, il sait comment il vend, comment il établit ses coûts. Mais par contre, il ne sait pas dialoguer avec le technicien bancaire qui, lui, va lui trouver des solutions financières pour pouvoir accompagner l'activité de son entreprise. Donc, l'idée, c'était plutôt que je voulais faire un pont entre la banque et l'entreprise, grâce, moi, à mes connaissances de bancaire, d'économiste aussi, et en même temps, la connaissance plutôt précise de l'entreprise, parce que mes parents étaient chefs d'entreprise. Donc, je sais aussi quelles étaient les problématiques que j'entendais à la maison. Et donc, ces problématiques-là, je les retrouvais chez mes clients. Donc, en 2008, je suis partie, je me suis associée dans une société de conseil d'accompagnement. Mm-hmm. Et toute la durée de toute cette période-là, j'ai constaté que l'accompagnement, il y avait des nécessités de technique, mais il y avait aussi une nécessité d'accompagnement humain. Et que l'accompagnement humain était pour moi devenait primordial.
Tout à fait.
Donc, je voyais des dirigeants qui ne savaient pas trop manager, qui n'avaient pas appris à manager, des dirigeants qui se posaient des questions sur comment les équipes fonctionnaient, des salariés qui n'étaient pas forcément bien dans leur basket, quelquefois, il y avait beaucoup de turnover dans l'entreprise, des conflits, des problématiques de productivité et d'efficacité au travail. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose à trouver. Plutôt que de mettre des tableaux de bord, entre guillemets, bêtes et méchants, qui sont utiles, bien sûr, mais comment je peux faire pour être plus à l'accompagnement humain ? Et c'est là que j'ai décidé de faire une formation de coaching à la faculté de Toulouse Capitole. Donc sur 18 mois, avec un mémoire, etc. Donc une chose très un peu...
Bien sérieuse,
bien sérieuse. Je suis retournée à l'école. J'avais plutôt l'âge des professeurs que des élèves, d'ailleurs. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Et donc j'ai commencé ce travail-là. Et j'avais toujours en fond d'écran le vécu que j'avais en tant que maman avec mon fils. Et donc je me suis dit, mais enfin quand même, ces émotions-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, j'ai un petit garçon qui gère pas bien ses émotions, donc je l'accompagne, etc. Et je me rendais compte qu'à l'entreprise, c'était un peu la même chose. Donc j'ai continué, alors j'ai fait du coaching, en même temps j'ai fait des formations un peu plus en EFT, des formations en Matrix, je me suis...
Donc l'EFT, pour expliquer à nos auditeurs,
oui.
Alors ça m'intéresse beaucoup, puisque c'est vrai que Zebrazan est une émission autour de la santé, des domaines holistiques. Donc l'EFT, c'est une manière de tapoter certains endroits, un circuit.
Libération. C'est une technique de libération émotionnelle qui tient compte en fait du fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire les dernières recherches en neurosciences ont fait apparaître que le cerveau a une façon de fonctionner bien spécifique et qui donc, il y a trois parties dans le cerveau pour faire très très vite, le cerveau archaïque, le limbique et le néocortex, sachant que l'archaïque c'est ce qui régit toute la partie réflexe sur lequel on n'a pas de maîtrise du tout. Le limbique, on va dire que globalement c'est tout le cerveau social et avec tout ce qui est, moi j'appelle ça la bibliothèque émotionnelle, tout ce qui est souvenir associé à une émotion et dans cette partie-là du cerveau, et le néocortex qui est toute la partie réflexion, prospective, etc. Bon, après, droit-gauche, on n'en parlera pas, parce que ça va faire trop compliqué, mais enfin, globalement, c'est voilà.
Donc l'EFT, là-dedans, permet de libérer des mémoires, en fait, émotionnelles.
Le cerveau limbique, en fait, il y a des espèces de schémas neuronaux qui se mettent en route. Je vous donne un exemple très simple. Si vous faites mordre par un chien à 2 ans, le chien est donc un gros chien, enfin, va être un gros chien de votre sensation à vous, et vous faites mordre. Vous vous développez plus tard une phobie d'un chien, des chiens. Mais à l'âge adulte, les chiens, ils vous arrivent tout juste aux genoux. Bon, il y en a certains qui sont dangereux, mais globalement, vous avez peur de tous les chiens. C'est-à-dire que même le plus petit Yorkshire qui se balade dans la rue va vous faire bondir. Mm-hmm. Ça, c'est le schéma neuronal qui a été mis en place quand vous étiez tout petit, qui est dans le cerveau limbique et qui est donc un schéma traumatique. Mm-hmm. L'EFT va vous permettre de le libérer. Voilà, donc il y a aussi, les psychologues aussi utilisent le MDR, qui fonctionne aussi très bien, voilà, qui a été mis en place par M. Servan Schreiber, voilà, qui était un neuropsychiatre. Donc ça procède des mêmes choses, en fait, c'est des techniques qui sont axées sur
On peut libérer des chocs, des traumatismes, des émotions inscrites depuis longtemps.
Et c'est très efficace.
Grâce à des techniques, holistiques. Alors on va écouter un morceau de musique et on se retrouve juste après Nathalie Ray, coach en entreprise, pour parler bien-être en entreprise.
Something inspiring me when I feel lost, like a breeze pushing me through safe coast. A path to take, choices to make, making mistakes, get up with the feeling that the hardest fighting is taking place in our mind. The greater light is finding room to aim. I know that yesterday is not today. Life is not a play. Find a better place is a goal. A road that has to borrow. All the reality overwhelms me, and my sins are walking near me. Down the road I see the sun. Oh. Life is a path strewn with thorns. It is not clement to anyone. Every day I see so many men catching their foot in the roots and falling, making mistakes, get up with the feeling that the hardest fighting is taking place in our mind. The greater light is finding the moon to wane. I know that yesterday is not today. Life is not a play. Find a better place is a goal. A road that has to borrow. Although reality overwhelms me, and my sins are walking near me. Down the road I see the sun.
Nous venons d'écouter les formidables Toulousains Human Songs avec le bassiste Pascal Selma et le chanteur Cyprien Zeny, dont les réputations ne sont plus à faire. Rebienvenue Nathalie Ray dans notre émission Zebrazen sur CFM. Alors j'aimerais que vous nous parliez davantage maintenant de ce que vous mettez en place concrètement dans les entreprises pour améliorer la communication positive, mais aussi la gestion des émotions, que ce soit des patrons ou des employés d'ailleurs.
Bien sûr. Alors, quand on parle de bonheur, de bien-être au travail, en fait, on s'est rendu compte qu'une personne heureuse était forcément beaucoup plus efficace.
Bien sûr.
Ça ne sert à rien de stresser quelqu'un, ça ne sert à rien de lui mettre la pression, parce que vous le rendez bête. Et ça, c'est un discours que je tiens systématiquement à tous les chefs d'entreprise que je rencontre, en leur disant, plus vous mettrez la pression à vos salariés, et moins ils seront efficaces. Vous dire, mais enfin, comment ça se fait? Ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça. Non, juste, quand quelqu'un rentre dans votre entreprise, c'est pas de faire l'assistante sociale, c'est juste de prendre en compte l'état émotionnel de la personne. Les émotions ne sont pas mauvaises. Les émotions sont un indicateur de votre état. Donc déjà, dans l'entreprise, lorsque j'interviens, si effectivement on identifie des tensions dans une équipe, ben en fait, je vais les faire jouer. Je vais commencer par détendre l'atmosphère, etc. Je vais les faire jouer, je vais trouver des choses pour pouvoir décaler en fait le sujet du stress éventuel que l'on peut ressentir.
Donc c'est des jeux de rôle, tu veux dire?
Ça peut être des jeux, non, je les fais jouer au capla, je les fais jouer au Lego. Ça dépend, je les fais chanter quelquefois, je leur fais faire des chorales, voilà. Il y a des choses qui... Ça dépend de l'état émotionnel de l'équipe. Et en parallèle, alors si je suis sur un coaching d'équipe, donc je monte le coaching d'équipe à partir des objectifs que le dirigeant me donne, c'est-à-dire s'il veut que ça se passe mieux, s'il veut que la productivité avance, qu'il y ait une meilleure organisation, etc. Donc je fais travailler les gens à partir de techniques créatives, toujours en essayant d'utiliser la Madeleine de Proust. C'est-à-dire que d'associer une émotion à un souvenir positif et d'essayer d'aller avancer là-dessus. C'est-à-dire que notre cerveau, il a une bibliothèque émotionnelle très importante. Si je vous parle, par exemple, du souvenir d'enfance qui est le plus précieux pour vous, ça va peut-être être le gâteau que la grand-mère faisait quand vous alliez le mercredi après-midi. Oui. Voilà. Donc avec ça, vous aurez la couleur des murs, vous aurez le sourire de la grand-mère, vous allez avoir l'odeur du gâteau, le goût, la texture.
Oui.
Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer justement pour pouvoir ensuite faire avancer une équipe. Alors ça semble complètement perché, j'ai bien conscience, mais comme j'ai quand même un cerveau droit très développé, je suis quand même une financière à la base, au départ, donc je peux vous garantir qu'après, les gens sont beaucoup plus détendus et on trouve des solutions d'organisation et de fonctionnement qui sont beaucoup plus, beaucoup plus efficaces.
Oui,
parce que les gens s'intègrent et se sentent concernés par ce qu'on leur propose.
Il y a deux choses, en fait. Par exemple, le docteur François Baumann, dans son livre « Éliminer la souffrance au travail », il dit effectivement que trop peu de patrons prennent en considération l'état affectif de la personne et qu'on ne peut pas, en fait, juste considérer un employé comme un travailleur. On est obligé de considérer l'humain pour ce qu'il est.
Je vais donner un méchant chiffre. Si l'on tient compte de l'état émotionnel des personnes, si on développe de l'empathie, donc tout ce qui est autour de l'intelligence émotionnelle, donc le développement de l'empathie, c'est tout ce que je décris, c'est pour développer l'empathie en équipe.
Il y a par exemple les livres de Daniel Goleman sur le sujet.
Tout à fait, c'est un vieux bouquin, enfin,
sur l'intelligence relationnelle et émotionnelle.
C'est la base de ce bouquin, et effectivement c'est quelque chose que j'ai lu il y a très très longtemps, mais qui m'a beaucoup beaucoup servi, notamment pour Maxime, pour mon fils, et aussi maintenant dans mes pratiques. Effectivement, l'intelligence émotionnelle, c'est des choses très très simples, c'est presque du bon sens. Ce serait presque du bon sens. Sauf qu'on l'a oublié, c'est parti sur d'autres choses, mais on l'a un peu oublié. Mais voilà.
Et le fait de... en fait, ce qui m'intéressait, c'est quand tu as parlé des cinq sens qui sont réactivés quelque part pour une personne, ça permet aussi de réactiver les hormones du bonheur dans le cerveau.
Oui.
Et plus, en fait, par exemple, plus le taux de sérotonine est élevé, plus on est heureux. Mm-hmm. Et il ne faut pas attendre quelque chose en particulier pour être heureux. En fait, ça commence dès maintenant.
C'est lui-ci maintenant.
Oui.
Le travail du coach...
Tu commences à sourire, es heureux.
Voilà. Mm. Le travail du coach, c'est le travail du ici maintenant. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur le passé, on ne travaille pas forcément sur l'avenir, on travaille sur l'état de la personne dans le ici maintenant. Donc on l'ancre dans le présent avec ce qu'elle a de potentiel et avec tout ce que ce que l'on pose systématiquement lorsque l'on reçoit ou un dirigeant ou quand on travaille avec une équipe, c'est que toutes les personnes ont les ressources pour pouvoir se avancer et que c'est elles qui ont les solutions. Un coach ne travaille pas sur les, ne donne pas de solutions. Il accompagne la personne dans sa réflexion pour trouver ses propres solutions. Quelquefois, les solutions qu'il va trouver ce seront pas celles que moi j'aurais imaginées, mais ce sont les siennes. Il se les approprie, il les met en route. Et le dirigeant, c'est pareil. On a énormément de dirigeants qui sont à la limite du burn-out. Beaucoup de dirigeants, moi j'en rencontre un grand nombre. Certains sont vraiment d'abord très seuls face à aux décisions qu'ils doivent prendre, face à la gestion de leur entreprise. Et en même temps, il faudra avoir 5 cerveaux, peut-être un peu plus même, pour pouvoir gérer tous les sujets qu'ils ont à gérer dans une même journée. Donc quelquefois, ils sont vraiment sous pression. Donc c'est leur dire, lorsque moi je m'occupe d'un dirigeant, voilà, on va créer un espace qui est un espace d'accueil. Je vous accueille dans un espace qu'on va créer tous les deux. Et cet espace-là, il est pour vous. C'est-à-dire que je lui donne l'habitude de prendre soin de lui. Donc ça veut dire que le matin, je lui dis, si vous dites des mauvaises choses sur vous dans la journée, c'est 1 € dans une tirelire pour voir le niveau de... Donc si, je suis idiot, je ne sais pas faire, tout ça, c'est... vous oubliez. Votre cerveau, il vous croit quand vous dites des bêtises. Il ne faut pas le dire. Voilà. Il faut dire que je vais m'améliorer, je vais y arriver, etc. Donc c'est déjà le truc de base.
Ouais, la communication positive commence par soi-même.
Oui, c'est obligatoire. Et ensuite, c'est prendre conscience de sa respiration. Donc quelquefois, je leur donne des petits tutos, tout facile pour pouvoir faire entre guillemets, la méditation, c'est pas de la méditation, mais c'est au moins prendre conscience de soi, de prendre conscience de sa respiration, prendre conscience de l'état de son physique, c'est-à-dire, est-ce que j'ai une tension à un endroit, est-ce que j'ai mal au dos, est-ce qu'éventuellement j'ai un genou qui me fait mal, voilà.
Être à l'écoute de son corps.
On oublie complètement le matin de faire ça, alors que c'est la première base, c'est le scanner émotionnel et physique.
La cohérence cardiaque, voilà. Tu connais ?
Oui, tout à fait. Je l'utilise quelquefois. Et en coaching d'équipe, je commence par... Quelquefois, il m'arrive de commencer par des petites choses comme ça. Presque... Enfin, je commence par m'occuper de leur physique et de leur émotion avant de commencer à travailler vraiment sur des problèmes, résolutions, etc. Donc, en fait, c'est un tout. C'est une approche qui est globale, en fait. On peut pas...
Exact.
On ne peut pas découper une personne en morceaux. Lui dire, bon, t'es pro, donc tiens, ta tête, je la prends, on la met sur la table, elle se met à bosser, le corps, on s'en fout. T'as mal au dos, démerde-toi avec ton dos.
Non, c'est pas
comme ça que ça marche. Quelqu'un qui a mal au dos, s'il prend des antalgiques, il va être à l'ouest toute la journée. Et quelqu'un qui a mal au dos, ben, il faut peut-être en tenir compte. Donc, quelquefois, dire, bon, ben ok, t'as des problèmes, des soucis de dos ou d'autre chose, peu importe que...
Et tu penses qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont vraiment conscientes de tout ça et qui font des
efforts. Si on tient compte, moi j'ai des stats de gens qui travaillent, je travaille avec des gens qui travaillent à l'international aussi, qui travaillent sur des pays, qui travaillent donc sur tout ce qui est amélioration du travail dans l'entreprise et de l'état, le bien-être d'entreprise. On peut gagner en productivité, on peut aller jusqu'à 25%.
Et oui.
Donc quelqu'un qui
il y a une étude chez Johnson & Johnson, ils ont comme ça en fait économisé des millions de dollars.
Si on parle juste finance, c'est 25% de productivité.
Bien sûr.
Donc ça veut dire 25% de plus dans le compte de résultat à la fin. Donc quelqu'un qui gagne, voilà. Et donc ça, l'air de rien, c'est pas neutre, c'est vraiment pas neutre. Bon, après c'est quelque chose qui chemine. Je veux dire, ce que je disais tout à l'heure avant l'émission, c'est que je sème des graines, certaines pousseront, d'autres ne pousseront pas. Comme j'interviens aussi au niveau de certains masters, j'interviens sur le développement, le management, le leadership, etc. Donc certaines jeunes, je leur donne effectivement, je leur parle de tout ça. Il y a certains, un jour, ils en auront besoin, ils iront chercher. D'autres, ça se potentialisera jamais. Ça dépend de l'histoire, ça dépend de tout ça.
Alors, est-ce que tu veux bien maintenant nous dire comment on fait pour te trouver ?
Quelles sont
les coordonnées ? Est-ce que tu as un cabinet quelque part ?
Alors, j'ai deux endroits où je pratique. J'ai mon endroit à Caussade, sur mon bureau à Caussade, mais c'est plutôt l'endroit, on va dire que c'est la Tanor, c'est là où je prépare toutes mes formations, toutes mes interventions. J'ai un bureau sur Montauban, voilà. Et je suis associée dans une structure qui s'appelle Lune Bleue à Toulouse, qui est une structure coopérative avec un ensemble de personnes donc on a trouvé un local maintenant, donc je pourrais intervenir aussi sur Toulouse. Mais en général, je vais dans les entreprises.
Oui,
très souvent.
Oui.
Il m'arrive aussi de coacher en marchant.
Parfait.
C'est-à-dire que je demande à certains de mes cadres ou des dirigeants que je coach, prenez vos baskets, on va aller marcher.
Génial, on va respirer.
Voilà, on va aller respirer, on va aller écouter les oiseaux. Alors, quelquefois, ça les fait rigoler, mais... rigoler au départ. Mais après, ils disent, je n'aurais pas imaginé pouvoir vous dire tout ça. Voilà.
Donc, c'est en fait de toute façon, on mettra ton lien vers ton site dans le podcast.
Oui, oui, bien sûr.
Et voilà, je te remercie beaucoup d'être venu nous parler dans les studios de Kailus à CFM Radio. Et puis, je te souhaite une très belle continuation dans le coaching professionnel, les neurosciences, tout ce qui te passionne et que tu fais très bien.
Merci.
Merci Nathalie, au revoir. Sans transition, je suis en train d'interviewer la coach vocale et auteure du livre « Trouver sa voix et faire son chemin » édité chez Erol. Bonjour Virginie Servaes, bienvenue.
Bonjour Daphné, merci de m'accueillir.
Eh bien, merci de prendre le temps d'être avec nous. J'aimerais que tu nous racontes peut-être une anecdote par rapport à l'aide que tu as pu apporter dans le milieu professionnel. Alors, et le coaching vocal.
D'accord. Donc avant de vraiment d'étayer avec une anecdote, je voudrais juste effectivement rappeler que ça fait 17 ans que j'interviens dans le monde des entreprises pour divers publics, majoritairement quand même ce que l'on appelle des cadres dirigeants et hauts potentiels. Et aujourd'hui, ça se démocratise, j'avoue, et j'en suis ravie. Sur l'accompagnement aux prises de parole en public. Alors ça, c'est générique, c'est connu, il n'y a pas de souci. Ma méthode fait que surtout les demandes sont très spécifiques. Il y a des personnes bien souvent qui sont à des moments charnières au niveau de leur carrière, soit une nouvelle prise de poste à fort enjeu, soit un vrai questionnement sur leur devenir. Et de fait, le travail de la voix a toute sa place et son importance, qui est à la fois amener de la valeur ajoutée, certes, à leur prise de parole en public, comme je disais précédemment, mais aussi lié à, comment bien exprimer ça, à une forme de bien-être, de confort et de confiance en soi. Et
oui, donc il y a vraiment une approche globale de la personne.
Totalement, c'est une approche globale, c'est le propre de ma méthode. Une voix, c'est soi, hein, ça nous représente, c'est pas quelque chose à part, on en parle toujours comme quelque chose qui est totalement hors de nous, quelque chose à part. Or, c'est complètement nous, ce sont nos organes, ce sont nos émotions, c'est tout notre corps et notre esprit qui forment une voix. Et donc, de fait, en tout cas, ce que je propose, c'est d'avoir une approche globale avec les personnes. Donc, pour donner un petit exemple à ce que je fais, je me rappelle, j'ai souvenir d'avoir accompagné une femme dirigeante qui avait un réel souci, était très experte dans son domaine, dans le domaine de la finance, et avait un réel souci lorsqu'elle devait prendre la parole en public face à un public masculin, essentiellement. Donc c'était paradoxal parce qu'effectivement son sujet elle le connaissait bien, elle semblait avoir et dégager même en termes physiques une confiance en elle incroyable, mais dès qu'elle devait prendre la parole avec un micro, il n'y avait plus personne. Et de fait, c'était donc pour elle une vraie souffrance à chaque fois de monter sur scène, parce qu'il y avait vraiment cet aspect-là, hein, même j'ai envie de dire en termes d'aménagement, c'était pas dans des petites salles, c'était vraiment sur scène. Et donc, quand je l'ai rencontrée, c'est vrai que j'ai été surprise parce que je le répète, quand je l'ai vue, j'ai trouvé qu'elle avait tout, elle dégageait tout, voilà l'essentiel. Et il se trouvait que effectivement, face à un public masculin, elle était très féminine en plus. Elle n'assumait plus du tout ça parce que elle subissait des railleries, et elle pouvait en oublier son sujet et n'avoir qu'une hâte, c'était de quitter la scène. Et du coup, elle passait pour quelqu'un d'incompétent. Le premier travail qui a été incroyable a été, d'un coup je lui dis, mais comment vous vous présentez lorsque vous arrivez sur son auto? Elle me dit, j'arrive, je veux tellement que ça aille vite que j'enchaîne directement sur le sujet. Et on s'est aperçu, premier déclic, qu'en fait elle ne disait pas bonjour à son auditoire.
Ah oui, je l'ai lu.
Voilà. Ben voilà. Oui, c'est vrai que je le cite dans le livre. Ouais. Et parce que rien que là, je dirais que ça, donner de sa voix, ça commence là. Mais après, le travail, donc ça, c'était très important comme prise de conscience, aussi petit cela puisse sembler, ça a toute son importance. Mais sinon, j'ai vraiment fait prendre conscience du travail lié à la respiration. La respiration, c'est nous. Hein, c'est rien que de respirer, ça fait partie du bien-être en soi. Hein. Mm-hmm. Le bien-être n'est pas un luxe. Le bien-être que l'on s'octroie commence vraiment par ça, je trouve, je pense.
Par l'écoute de soi-même.
Par tout ce travail autour de la respiration, de se recentrer sur soi, d'aller à son rythme. Va aller tout le reste, en fait.
Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ton livre, ce sont les noms des chapitres qui sont également dans la dernière couverture, qui sont absolument parlants. Quel est le but, en fait, de ce coaching vocal? Se faire entendre, prendre sa place et affirmer sa personnalité. Donc, je te remercie vraiment pour illustrer tout ça. Je vais donner à nos auditeurs les coordonnées de ton site internet. Donc, c'est www.vsc-consulting.com. Donc, on peut te consulter sur Paris.
Paris, mais même pas. Je me déplace en province.
D'accord.
Je reviens de Vannes. Je me déplace.
Nous sommes dans les studios de Keylus, et je sais que tu connais très bien le coin, c'est vraiment un plaisir.
Saint-Antonin, je salue tout le monde là-bas, parce que vraiment, j'ai beaucoup d'amis, j'y retourne souvent.
Voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour nous, de partager. À bientôt, Virginie.
Merci infiniment. À bientôt, merci Daphné.
Merci.
Au revoir.
Nous quittons aujourd'hui avec un morceau de Tindiaï, qui est en fait le nom de scène de Virginie Servès. Et son titre s'intitule Mikami Kutayap. Un petit peu de soleil pour vous et très belle entrée.
Savourer.